Aujourd'hui, la masterclass de William Finnegan avec Sylvain Bourmeau.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette masterclass qui prend place dans cette série que France Culture propose tout au long de l'année et qui sont diffusées durant l'été dans ce qu'on appelle la grille d'été de France Culture. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui me prêter à l'exercice de la masterclass avec William Finnegan. William Finnegan est un journaliste américain qu'on a appris à découvrir en France et à lire à l'occasion de la parution il y a quelques mois d'un livre qui est un très grand succès, Jour barbare. Ce livre est publié aux éditions du Sous-Sol. Ce n'est pas le premier livre de William Finnegan qui a publié comme journaliste un certain nombre d'autres ouvrages déjà remarqués sur différentes situations internationales, en particulier l'Afrique du Sud, qu'il connaît bien, qui a été son premier terrain d'écriture, au fond. William Finnegan est reporter pour un très prestigieux journal, l'hebdomadaire Le New Yorker. Après avoir été collaborateur de ce journal, il en est devenu ce que l'on appelle en anglais un staff writer, c'est-à-dire quelqu'un qui est membre à part entière de la rédaction. Et ce journal, vous le savez peut-être, offre en général des conditions de travail que tous les journalistes français en particulier envient, c'est-à-dire la possibilité de travailler longtemps sur des sujets, de s'immerger véritablement dans leurs sujets, quitte à ne publier que quelques articles dans l'année, en tous les cas de longs articles, parce qu'à côté de cela, William Finnegan a aussi pour habitude de publier ce qu'on appelle des commentaires sur l'actualité, beaucoup plus réactifs et plus brefs. Alors on va parler de journalisme, bien évidemment, mais on va parler de littérature, parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre, et que William Finnegan, avant de devenir journaliste, avait rêvé probablement d'être écrivain, ce qu'il a fini par être, peut-être sans tout à fait s'en rendre compte et prendre le chemin habituel. Jour barbare, c'est ce qu'on appelle, dans la terminologie anglo-saxonne de l'édition contemporaine, un mémoire, c'est-à-dire une forme d'autobiographie, rien à voir avec ce qu'on peut appeler en France l'autofiction. C'est un livre autobiographique, tout simplement, avec une certaine prétention littéraire. Tout ce qu'on lit dedans est factuel. C'est du journalisme sur soi-même, pourrait-on dire d'une autre façon. William Finnegan a décidé d'écrire ce livre il y a quelques années pour revenir sur ses années de jeunesse, celles qui vont de l'adolescence, du tout début de l'adolescence et même de l'enfance, jusqu'au moment où il devient, d'une certaine façon, un journaliste professionnel. Des années de formation. Donc on peut lire Jour barbare comme un roman de formation. D'ailleurs, William, peut-être, ce pourrait être la première question. Dans quelle mesure Jour barbare peut être lu comme ce qu'on appelle un roman de formation?
Thank you very much for being here. Thank you for this question. Je suis désolé, je ne peux pas français. Need some help.
De Marguerite Capel, qui va traduire les propos de William Finnegan.
Donc, merci d'être là. Merci pour la question.
And as I said, thanks for that question. Because
pour répondre à votre question, donc un roman d'éducation, ce n'est pas une mauvaise description, effectivement, pour ce livre.
When I gave it to my publisher, they said, oh, this is the portrait of the artist. That's what you know.
Quand je l'ai remis à mon éditeur, d'ailleurs, ils m'ont dit, bah, c'est le portrait de l'artiste en jeune homme. C'est vraiment exactement ce type de livre. Mais c'est quand même un livre autobiographique qui a une dimension thématique très forte.
Very strongly themed biography, autobiography, in that I took this part of my life, which is surfing. It's a pretty big part, but kind of a hidden part.
Qui est effectivement le surf. Le surf, c'est une partie de ma vie. Ça a été en fait une partie très importante de ma vie, mais une partie qui a toujours été plus ou moins secrète, parce que donc je travaille effectivement comme journaliste, j'écris des articles d'opinion, des reportages, etc. Et je sentais que ça m'aurait rendu peut-être un peu vulnérable de révéler au lecteur que je faisais du surf. Quelque part, c'est quelque chose qui n'allait pas très très bien ensemble, en tout cas aux États-Unis, et je pense ici aussi. Ça pourrait me faire perdre de la crédibilité.
And this concern of mine I should say, turned out to be groundless. You know, there was no need. I was thinking that people on the other side of political debates, public policy debates that I'm engaged in, you know, U.S. foreign policy, other things, I was afraid that they would say, what? You know, you're just a dumb surfer. We don't need to take you seriously. And that never happened. So it
was, donc j'ai cette inquiétude, en fait, s'est avérée être sans fondement. J'avais peur, en fait, que les gens en face de moi, dans le débat politique, le débat sur les politiques publiques, notamment sur la politique étrangère américaine auquel je contribuais, se disent que si j'étais qu'un idiot de surfeur, c'était pas la peine de me prendre au sérieux. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Donc c'était une inquiétude qui était tout à fait stupide de ma part.
L'idée d'une themed autobiography où il y a this heavy surfing theme. It kind of organized the story for me, and it I think it reads a little bit perversely at times because I kind of stick with.
Mais cette dimension aussi très forte thématique de l'autobiographie, ça a été aussi une manière pour moi de structurer l'histoire. Et parfois, il y a un côté peut-être un peu pervers dans la façon dont ça peut se lire, puisque je lis en permanence l'histoire, tout ce que je raconte à des amitiés masculines, notamment avec des amis à moi, et puis des endroits où j'ai été. Donc, je suis en permanence en train de passer de l'histoire personnelle à aussi une histoire qui est aussi une histoire sociale, qui est aussi une histoire d'amitié, et puis des lieux où je vais. Et je mentionne parfois très rapidement, au fait, oui, je me suis mariée, mais j'ai plutôt envie de décrire cet endroit en détail. Et au fait, là, j'ai publié un livre, mais attendez, je vais revenir sur une vague magnifique que j'ai vécue. Donc, le but, c'était que ce soit un peu amusant aussi, mais que ce soit une manière de traduire l'obsession, en fait, le caractère obsessionnel du surf.
Il est question aussi, William Finnegan, dans ce livre, d'écriture. Il a bien fallu qu'à un moment donné, l'écriture soit là, sinon le livre n'existerait pas. Mais vous débarquez à l'âge de 13 ans à Hawaï, puisque votre père vient s'y installer et toute la famille avec lui. Votre père qui est assistant réalisateur pour des séries télévisées. Et vous mettez en situation, dans cette première page, écrivant une lettre à un ami resté à Los Angeles. Donc vous êtes déjà en scène comme quelqu'un qui écrit. Et ces lettres, on va les retrouver, d'ailleurs, dans le livre. Finalement, ce livre aussi peut être lu, et c'est en cela que je parlais de roman d'apprentissage, comme une longue histoire de l'apprentissage de l'écriture.
Yeah, that's another reason why I like that description. And it does... A funny thing happened. I was trying to...
Autre raison pour laquelle, effectivement, cette façon de décrire le roman me plaît bien, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'amusant, en fait, avec ces lettres. J'étais en train d'essayer de commencer à écrire ce livre et de me demander un peu par où le prendre, quand j'ai reçu un paquet par la poste, un colis d'un vieil ami qui m'avait envoyé et qui contenait, en fait, toutes les lettres que je lui avais écrites quand j'avais 13-14 ans. En fait, quand on a déménagé à Hawaï, j'écrivais à mes amis en Californie pour leur raconter tout ce que je vivais.
Every night, you know, all my adventures.
Et donc c'était des dizaines et des dizaines de lettres, des centaines de pages. J'écrivais tous les soirs. En fait, je racontais toutes mes aventures de surf à l'école, les filles, etc. C'était terriblement mal écrit. J'utilisais tout le temps du vocabulaire du genre ça déchire, tout déchirait.
Bitching. Every girl was bitching. I don't know if people remember that word. But it was. You know, it was like the Proustian Madeleine, huh? It was like really just like it all came back to me.
C'était une véritable Madeleine de Proust, en fait, de retrouver ces lettres, et ça m'a fait, en fait, aussi vraiment remonter à la mémoire tout ça. Mais je ne savais pas trop, en fait, si tout était juste dans les récits que je faisais. Évidemment, il y avait aussi des choses qui étaient un peu romancées. C'était un bon point de départ pour le livre, parce qu'en fait, vous avez raison, je cite ces lettres dès les premières lignes, mais je les remets aussi tout de suite en cause, c'est-à-dire que je m'interroge immédiatement sur cette version antérieure de moi-même, sur cet écrivain, cette personne qui écrivait mais d'avant et qui raconte dans ses lettres ce qui est un tableau, en fait, de ma façon de vivre à l'époque, de ma façon de voir la vie à l'époque. Donc ça a été un incroyable coup de chance.
Ce qu'on découvre assez vite en lisant Jour barbare, qui est présenté de manière chronologique, à l'exception du premier chapitre qui commence par l'adolescence, puis après vous revenez sur l'enfance, mais après les choses se déroulent dans l'ordre. C'est que assez vite, vous nourrissez l'ambition de devenir écrivain. En tout cas, vous essayez d'écrire un roman. Peut-on un instant s'arrêter sur ce moment-là ? Est-ce que vous vous souvenez précisément des raisons qui vous ont poussé à essayer d'écrire ce roman ? Vous indiquez aussi que, à l'occasion, vous écrivez des nouvelles. Visiblement, vous avez un rapport très, très simple et délié à l'écriture qui contraste aujourd'hui, peut-être, avec les jeunes gens de 13-14 ans.
Is that true? I mean, I don't remember writing those letters. Here's hundreds
donc,
of pages.
Vraiment, je, en fait, je ne me souviens pas du moment où j'ai écrit ces lettres que je mentionne dans le livre.
I loved books. I wanted to write. I wanted to tell stories, and I wrote poetry and fiction. Fiction seemed like the natural.
Par contre, un peu plus tard, toujours adolescent, effectivement, j'avais envie d'écrire, j'adorais les livres, et je me suis essayé à l'écriture, la poésie, la fiction, bien sûr, parce que la fiction est l'expression naturelle de ce genre d'ambition littéraire. Et j'ai écrit trois romans, en fait, qui n'étaient pas très bons, qui n'étaient pas publiables. Mais j'avais déjà un sentiment très clair, exacerbé de ma place dans le monde, hein, puisque quand j'avais 19-20 ans, j'ai écrit un roman de 2000 pages.
And I just assumed this novel would take its place among, you know, other great works of literature somehow. I put it in a drawer, but yeah, okay. But in my 20s,
et je l'ai mis au fond d'un tiroir. Hein. J'imaginais pas qu'il allait se retrouver parmi les chefs-d'œuvre dans une bibliothèque.
Before I didn't publish those three novels, none of them, and then I went through a kind of life change.
Mais mon écriture s'est quand même améliorée après ça, et j'ai écrit des choses qui étaient peut-être plus publiables, mais j'ai jamais essayé en fait avec les romans, jusqu'à ce qu'il y ait un grand changement dans ma vie qui me pousse à prendre un tournant à 90 degrés en termes de vocation d'écriture, et à décider que ce que je voulais faire c'était d'écrire de la non-fiction, du journalisme, mais du journalisme de forme longue, en fait, ce que je vais expliquer.
Avant que vous n'expliquiez ce changement et ce basculement, cette attirance pour ce qu'on appelle maintenant la narrative non-fiction, et on passera un peu de temps sur cette catégorie, je voudrais que vous nous disiez ce qui avait pu vous attirer dans la fiction, d'abord comme lecteur, quels ont été pour vous les grands livres, ceux qui dans l'enfance ou peut-être dans l'adolescence vous ont profondément marqué, William Finnegan.
Well, when I was a kid, I mainly read books on subjects that interested me, so lots of sports books.
Quand j'étais enfant, j'ai commencé par lire des choses sur les sujets qui m'intéressaient, donc je lisais beaucoup de livres de sport, et puis j'avais un goût un peu bizarre pour les livres destinés aux filles, donc des lectures pas toujours faciles à admettre en public, du type Heidi ou Pollyanna.
I loved these books. And so my tastes were kind of all over the place. And then at a certain point, you're introduced to different kinds of classics, children's classics, and then juvenile classics. But I had one.
J'avais des goûts qui partaient un peu dans tous les sens, et puis ensuite il y a eu les classiques enfantins et de jeunesse évidemment. Mais en fait, très tôt, j'ai un prof au lycée qui m'a dit que j'étais prêt pour la vraie littérature et qui m'a orienté vers des livres qui n'étaient pas au programme scolaire, qui m'a fait découvrir des auteurs comme James Joyce, par exemple, qui est immense.
They were so exciting to me. I mean, it was something I didn't.
Je découvrais, en fait, je n'imaginais pas qu'on pouvait mettre une chose pareille, créer une chose pareille sur une page.
So I started a bit young, like not formally, but informally introduced to some great writers and including plenty of great French novelists as well, Balzac, Stendhal, and so on.
Et donc j'ai eu une introduction en fait à ces grands auteurs informels, mais relativement jeunes, les auteurs français aussi, Balzac, Stendhal, etc.
But it seemed quite natural.
Et ensuite, sur ce qui est du passage à l'écriture, ça me semblait assez naturel, en fait, pas tant parce que j'avais lu, justement, que ça me donnait envie d'écrire, mais plus parce que je vivais, tout simplement. Par exemple, quand une fille me brisait le cœur, j'écrivais 100 pages tout de suite à ce sujet-là, et ça me faisait me sentir mieux. Donc, très naturellement, ce que je vivais me poussait à avoir envie de l'écrire.
But it's only now that I see how much we were. the way I was educated sort of directed toward fiction as being the
je réalise aujourd'hui que la manière dont j'avais été éduqué me poussait plutôt à penser que l'expression littéraire qui avait la plus de valeur, c'était à travers la fiction. J'imagine que c'est toujours plus ou moins vrai, y compris ici en France. Donc, en tant que gamin ambitieux, c'était aux grands écrivains de fiction qu'on avait envie de ressembler.
Strain of literature which was not being taught in the schools.
Je dois ajouter aussi qu'en dehors des classiques qu'on peut découvrir à l'école, à l'université, etc., il y avait tout un autre courant littéraire en fait sur lequel qu'on ne nous enseignait pas, qu'on ne nous apprenait pas à l'école et que j'ai découvert à l'adolescence avec mes amis.
Ginsberg, William Burroughs was a complete revelation to me.
Et qui étaient des livres qui étaient mes contemporains, qui sortaient en fait à ce moment-là, les livres des Beats notamment, Kerouac, Ginsberg et Burroughs, qui a été extrêmement marquant pour moi, et puis Norman Mailer ou Pynchon, des gens comme ça, et qui n'étaient pas enseignés à l'école et qui étaient sans doute d'autant plus intéressants pour ça.
Peut-être faut-il aussi ajouter que vous avez grandi dans un milieu familial dans lequel la culture occupait une place importante. Je le disais tout à l'heure, votre père était réalisateur. J'imagine qu'il y avait un lien avec l'industrie de la télévision, du cinéma, assez fort à Los Angeles. Et donc, vous êtes trouvé dans cette situation que vous décrivez dans le premier chapitre du livre, à Hawaï, où vous étiez scolarisé dans un collège public, dans des milieux sociaux que vous découvriez à travers les bagarres, souvent entre élèves. J'imagine des milieux sociaux assez différents de votre milieu familial. Mais malgré tout, vous êtes le produit de ce double rapport entre les jeunes copains de Hawaï et la nature et la découverte du surf d'un côté, et d'un autre côté, un encouragement pour des pratiques culturelles qui étaient probablement plus proches du Los Angeles qui avait été celui de votre enfance et que vous allez retrouver plus tard, William Finnegan.
I don't know, I grew up in a suburb of LA. It wasn't very culturally sophisticated really. It was, television culture.
En fait, c'est dans la banlieue de Los Angeles que j'ai grandi, donc c'était pas un lieu de culture très très sophistiqué, on avait plutôt une culture de télé et mes parents c'était dans la télé aussi qu'ils étaient.
What I was doing. But my father,
mais ils m'ont encouragé effectivement à écrire, mais ce que mon père me disait, c'est que les seuls écrits qui comptent, c'est ceux qui sont publiés.
And he would always tell me anything, write obituaries, write for sports, like for the local
newspaper. Tout le reste ne compte pas, et peu importe ce qu'on écrit, il me disait écris ce que tu veux, écris même des nécros, des articles sur le sport dans le journal local, peu importe, tant que tu n'as pas un éditeur, une deadline, etc., ça ne vaut rien en fait. Et évidemment, je détestais entendre une chose pareille, et puis bon, en fait, il n'y avait pas de journal local dans lequel j'aurais pu écrire. Dans les banlieues de Los Angeles, il n'y avait pas ça, c'était quelque chose qui était beaucoup plus faisable dans la petite ville où il venait.
He was right that he could see that I was afraid of editors, of publication, of having my work read critically and so I was hiding from that and so
there was mais en fait ce qu'il percevait surtout c'est que j'avais peur en fait d'avoir un éditeur, d'avoir un regard critique sur ce que j'écrivais, que ce soit jugé, donc je me cachais un peu et il me voyait aussi lire des magazines de surf, alors il me disait t'as qu'à écrire un article pour un magazine de surf et je te fournirai les photos puisqu'il aimait beaucoup prendre des photographies.
And I would say you don't understand, you can't take a photograph that they would publish ever. No, I'll photograph you surfing. No, you don't.
So il dit, mais tu comprends pas, papa, tu peux pas prendre une photo qu'ils publieront. Il disait, mais si, je te photographierais toi en train de surfer. Sauf que ce sont des magazines, évidemment, qui ne publiaient que des photos de très grands surfeurs sur des vagues incroyables et pas d'un gamin comme moi. Donc, à la fois, ils m'encourageaient et en même temps, il y avait une sorte d'incompréhension fondamentale entre nous.
Misunderstanding.
Vous avez décidé d'étudier la littérature à l'université, mais aussi de quitter assez vite l'université pour prendre la route, comme on disait à l'époque. Vous citiez Jack Kerouac. Dans quelle mesure c'était quelque chose de générationnel, au fond, le fait d'avoir cet âge-là, à ce moment-là, prendre une voiture ou un camion avec un copain pour traverser les États-Unis de long en large, du nord au sud, d'ouest en est, dans un premier temps, puis après le monde entier, d'une certaine façon. On a l'impression que vous avez substitué à des études classiques cette découverte du monde à travers des voyages, d'une part, et d'autre part, le surf comme école du regard et comme école de l'écriture, William Finnegan.
It was generational with me, and in fact, it was a big cliché, like to go backpacking in Europe, you know, when I finished high school. There were lots of kids doing that. They probably bothered some of you, or maybe they included some of you. But there was a weird tension during the exact period. I mean, Kerouac and the Beats were a generation before me. I was more like hippie period, anti-Vietnam War. And it was a cultural moment, especially where I went to university in California, where the professors were, a lot of them were becoming quite disoriented. And,
oui, c'était effectivement quelque chose de tout à fait générationnel, et c'est même un gros cliché. Hein, les jeunes, après le lycée, il y avait beaucoup de jeunes qui partaient faire le tour de l'Europe en sac à dos. Vous avez dû en croiser certains qui vous ont peut-être cassé les pieds, ou peut-être que certains d'entre vous ont fait partie aussi de ces jeunes. Mais Kerouac, la Beat Generation, c'était la génération d'avant. Moi, j'étais plutôt de la période hippie, en fait, la période anti-guerre du Vietnam, etc. Et c'était un moment pour la culture qui était très particulier. En particulier au moment où j'étais à l'université en Californie, c'était un moment où nos enseignants, nos professeurs perdaient un peu le fil, ils étaient un peu désorientés. En fait, la première fois où j'ai quitté l'université pour aller surfer, j'y ai été encouragée par mon enseignant, en fait celui qui me suivait principalement, qui était un professeur distingué, qui lui-même écrivait sur la différence entre Dionysos et Apollon, qui trouvait ça formidable de quitter le monde un peu répressif de la civilisation, cet univers institutionnel et castrateur, hein, pour aller faire un truc extrêmement romantique, comme quel que soit ce que je voulais faire, et si c'était du surf, très bien. C'était pas un conseil formidable, hein, d'ailleurs. Moi, je n'étais qu'un jeune étudiant. Mais à l'époque, en fait, c'était vraiment le moment qui faisait que les adultes ne se comportaient pas vraiment comme des adultes. Au final, effectivement, le voyage et le surf se sont transformés en véritable école pour moi, mais j'avais quand même toujours beaucoup de livres dans mon sac à dos.
And perhaps I just remember that particular professor, when I decided
to come back, qui m'avait encouragé à partir quand je suis revenu et que j'ai décidé finalement d'obtenir mon diplôme, de terminer mes études, il a été très déçu de me voir, parce que pour lui j'avais fait le bon choix en faisant ce choix dionysiaque de l'aventure.
Alors on comprend bien comment le voyage, et les voyages seront nombreux, d'abord à travers les États-Unis, mais aussi dans l'océan Pacifique, d'autres îles hawaïennes, et puis également l'Australie, Bali, et puis l'Afrique et l'Europe. Vraiment une sorte de tour du monde, au fond, que vous avez eu l'occasion de faire pendant plusieurs années, qui aura été très, très formateur. On voit bien comment, ayant fait ce tour du monde, on peut devenir un spécialiste de politique étrangère, ou en tous les cas, comment on peut avoir envie de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous y étiez au moment où l'apartheid battait encore son plein. Ce qu'on est peut-être un peu moins habitué à comprendre, et que votre livre, Jour barbare, permet véritablement de saisir, c'est la manière dont l'autre aspect de ces voyages, c'est-à-dire le surf, c'est-à-dire au fond la raison même de ces voyages, a pu constituer une école. C'est-à-dire comment, au fond, la méthode du surf, la pratique du surf, devient non seulement un mode de vie, mais un mode de connaissance, au fond, du monde.
Yeah, surfing actually was a really, you know, it's if you want to travel, if you want to see new places and know more about the world, it's can be good to have a kind of focused purpose. You know, you're not just there as a tourist. Like, I'm here for waves. I'm here for waves, and you end up living in villages and really getting to know people, because what you want is often very far from the beaten path, you know, like where tourists go. And so it's kind of a good way to live with Asian peasants or you know villagers in Polynesia.
En fait, le surf c'est un bon moyen effectivement de découvrir le monde. En fait, quand on voyage, c'est bien d'avoir un objectif précis. C'est ce qui fait justement que vous n'êtes pas un touriste. C'est que ce que vous cherchez, vous, ce sont les vagues. Et c'est ça qui va vous permettre en fait d'aller dans les villages, de rencontrer les gens, parce que souvent, ce que vous cherchez, les vagues, se situent très loin en fait des sentiers battus. Donc c'est un bon moyen de se retrouver à vivre avec des paysans en Asie ou des villageois dans les îles de Polynésie.
But, I was always having to work jobs. I had no money, so I'd get a job doing this, that, you know, bartending in Australia or, you know, crewing on a yacht or whatever. And the very last job I had, I had a job teaching high school in outside Cape Town in South Africa during the bad old days of apartheid. And that was this sort of big change I went through as a writer. I was just finishing my third novel at that point, and but the job was super intense. It was a black high school, and the students went on strike for 3 months protesting apartheid in education, and the confrontation with the state got quite violent, and a lot of people were killed and injured in the community where I worked, and a lot of my students and my colleagues were imprisoned, you know, political prison, no criminal charges.
Mais j'avais aussi besoin de travailler, en fait, puisque je voyageais si longtemps que j'avais pas d'argent. Donc j'ai été serveur, j'ai travaillé comme équipier sur des yachts, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. Et le dernier, en fait, c'était quand j'étais justement en Afrique du Sud, dans la banlieue de Cape Town. J'ai été enseignant dans un lycée, donc c'était effectivement pendant l'apartheid. Et ça a été ce moment de grand changement pour moi. En fait, à ce moment-là, je venais de terminer un troisième roman, mais j'étais extrêmement investi dans mon travail et c'était une expérience très intense. J'étais dans un lycée noir où les élèves et les enseignants ont fait grève pendant 3 mois pour protester contre l'apartheid dans le système éducatif. Donc j'ai été confrontée vraiment, il y a eu beaucoup de confrontations extrêmement violentes avec l'État. Il y avait beaucoup de morts et de gens qui étaient blessés dans la communauté dans laquelle je vivais. J'avais des élèves et des collègues qui se retrouvaient en prison pour des raisons politiques, hein, pas du tout pour des crimes. Et donc j'étais évidemment très très investi dans la situation.
L'expérience était tellement intense, j'ai été très involved in all of this, you know, and I just, when I kind of looked up from this world after a year of teaching, I had lost interest in the type of fiction I had been writing, this kind of artsy, but increasingly mainstream, but kind of romantic American fiction, and I just wanted to write about power, politics, injustice, you know, things that were happening in the world. And that's really when I turned to nonfiction. I started writing political essays for American magazines, and became a freelancer. And it was because of my experience in South Africa. And although at first I couldn't really write about South Africa. I was so involved in it that I had to write about other things. But my interests had changed.
Quand j'ai levé le nez au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu tout intérêt pour cette forme fictionnelle, un peu expérimentale, même si ça devient de plus en plus mainstream maintenant, de cette recherche en fait de la fiction américaine de l'époque. Ce sur quoi j'avais envie d'écrire, c'était les rapports de force, c'était le pouvoir, c'était l'injustice, c'était ce qui se passe vraiment dans le monde. Et donc c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter la fiction et de me lancer dans des essais politiques que j'ai écrits pour des magazines, etc. Enfin, je suis devenue un journaliste freelance. Donc c'était vraiment à cause de cette expérience en Afrique du Sud, même si au début je ne pouvais pas écrire sur l'Afrique du Sud parce que justement j'étais trop près, trop investie dans la situation, donc j'avais besoin d'écrire sur d'autres choses. Je n'ai pas pu le faire tout de suite, mais voilà, ça m'a quand même complètement changé ma façon de voir les choses et je suis devenue journaliste.
À ce moment-là, dans le livre, dans le récit que vous faites, on a le sentiment que vous basculez progressivement vers le journalisme, mais vous auriez pu très bien basculer plutôt vers l'activisme politique, vers l'engagement politique. Qu'est-ce qui fait que, finalement, c'est le goût pour l'écriture, qu'est-ce qui vous a fait rester et devenir journaliste, au fond, à ce moment ?
Yeah. Well, it was actually a close thing with me at that point. I mean, I hadn't been trained in journalism. And my impulses were very much, you know, activist. I was involved in the anti-apartheid movement and so trying to figure out how to write clearly about South Africa, Southern Africa, the subjects that interested me, you know, other countries besides South Africa, but in the region, it was a big struggle, you know, war in Mozambique, war in Angola, it was a big struggle. And how to write about that reliably so that, you know, people trusted my point of view and yet still push forward my very strong opinions about who was right and who was wrong in South Africa in particular.
En fait, pour moi, les deux étaient assez proches. Je n'ai pas une formation de journaliste et la première impulsion que j'avais en m'intéressant à ces sujets était aussi une impulsion d'activiste, en fait. Et je me suis impliquée politiquement dans le mouvement anti-apartheid, etc. Et j'ai essayé d'écrire sur l'Afrique du Sud, mais aussi sur toute la région, sur le sud de l'Afrique en général, donc le conflit au Mozambique, la guerre en Angola, etc. C'était des conflits très importants à ce moment-là. Et j'ai voulu essayer d'écrire quelque chose qui soit fiable, que les gens puissent avoir confiance dans mon point de vue, mais aussi quand même mettre en avant ma propre opinion sur ceux qui avaient raison et ceux qui avaient tort dans l'histoire, et en particulier quand j'écrivais sur l'Afrique du Sud.
I eventually found myself writing about subjects that my colleagues in the anti-apartheid movement all had fixed opinions about. Like, for instance, I wrote a book about the war in Mozambique, and everybody had an idea of how that war worked and who was good and who was bad. Mm. But I had those opinions, and I'd never been there. And then I went, and I spent a lot of time and talked to a lot of people and developed a different analysis of the war that was, I mean, quite different from the sort of politically correct, the standard anti-apartheid view. And then trying to decide what do you write, what's true and what's useful, and what the consequences at that point. I was by then writing for The New Yorker. Big circulation, but especially an influential readership in the United States. So what will be the consequences of... So I struggled with that difference, journalist activist, for quite a few years when I first started. Not so much.
Mais en fait, je me suis rendu compte que je finissais toujours par m'intéresser à des sujets sur lesquels mes collègues du mouvement anti-apartheid avaient des idées relativement arrêtées. Par exemple, le conflit au Mozambique, tous les gens qui faisaient partie du mouvement anti-apartheid avaient leur idée de qui avait tort et qui avait raison dans ce conflit-là. Moi aussi, j'avais ce genre d'idée alors que je n'y étais jamais allée. Et en fait, je me suis rendue sur place, j'ai parlé aux gens et mon point de vue a évolué. Il est devenu beaucoup plus complexe que la position politiquement correcte des gens qui appartenait au mouvement anti-apartheid. Et donc, je me suis beaucoup interrogée au début sur la véracité de ce que j'écrivais, sur l'utilité aussi de ce que j'écrivais, des choix que je faisais, et sur les conséquences que ça pouvait avoir, parce que j'écrivais donc pour le New Yorker, qui avait un lectorat important, mais surtout très influentiel. Donc, potentiellement, c'est très influent. Donc, potentiellement, ça pouvait avoir un impact sur ce que j'écrivais. Et donc, j'ai été beaucoup aux prises avec cette différence entre le journalisme et l'activisme, ce positionnement pendant les premières années de ma carrière. C'est moins le cas aujourd'hui.
Vous disiez que vous avez mis un peu de temps avant d'écrire sur l'Afrique du Sud, parce que précisément, vous étiez trop près du sujet, peut-être trop engagé politiquement dans ce sujet. De la même façon, dans le livre, vous expliquez qu'il vous a fallu 7 ans pour faire le portrait d'un surfeur à San Francisco parce que vous étiez trop proche de lui. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça s'agissant de la bonne distance pour écrire du journalisme?
Those were completely different problems. The South Africa thing was that when I was still living there and really close to this tremendous struggle, I had a kind of fundamentalist perspective. You know, what can I write that will be useful? I mean, that people will read in the West, in America, in Europe somewhere, and they will give money. Even give arms. I mean, I was really just a kind of, excuse me, a kind of fundamentalist about it because I was so caught up in it. And it's impossible to write when you're thinking, you know, this won't be useful. You know, what will this do in the world? This writing doesn't have really.
Alors c'était deux problématiques totalement différentes. En Afrique du Sud, en fait, quand je vivais encore sur place, j'étais effectivement au plus près de ce combat et c'était extrêmement intense. Et j'avais une position presque fondamentaliste par rapport à ce que j'aurais pu écrire, c'est-à-dire que je voulais absolument écrire quelque chose qui soit utile, qui soit lu en Occident, aux États-Unis, en Europe, etc., qui permette peut-être de lever des fonds, qui allait peut-être avoir un impact, mais y compris même aussi pour fournir des armes, etc. Donc, en fait, j'étais tellement impliquée que c'est impossible d'écrire en fait quand ce qu'on veut absolument que ce qu'on écrive ait un impact et change le monde concrètement parce que c'est pas ça en fait la fonction de l'écriture.
Eventually I got over myself a little bit, came back to the US and realized really, you know, South Africa is the only thing I know very much about, and I got a little bit of distance and was able to start writing. Yeah. But this those 7 years that I spent, I got an assignment, you know, to write a magazine article about surfing, and it took 7 years to turn it in. I missed quite a few deadlines in there, and that was this thing I mentioned earlier, where I was very shy about revealing to people that, because by then I was, you know, working at the New Yorker and wasn't sure about being out of the closet as a surfer. But also, it wasn't because I was close. It was kind of a profile that I was writing about a guy I surfed with in San Francisco, a big wave surfer, very colorful guy. It wasn't because I was close to him. It was because I came to understand when I reported the piece and really looked at the material that he was not going to like the piece. And I was trying to avoid that and did not want that to happen. It was a big piece, you know, like a multi-part, maybe 40,000 word piece. And so it's a big thing in your life, you know. And I really didn't want him to hate this piece, which he did. No matter what I did, he was going to hate it, and he hated it. So that was another part of the...
Je me suis un peu calmée finalement quand je suis revenue aux États-Unis et que un peu plus loin de la situation, j'ai réalisé qu'effectivement je savais pas mal de choses sur l'Afrique du Sud et que je pouvais être capable d'écrire des choses qui soient pertinentes et utiles dessus. Sur la question du portrait de ce surfeur en californien, c'était effectivement une commande hein, d'un magazine de surf que donc j'ai mis 7 ans à honorer, donc j'ai loupé pas mal de deadlines. Et en fait, il y a ce truc que j'ai mentionné tout à l'heure de la timidité que j'avais. J'étais pas vraiment sortie du placard en tant que surfeur à l'époque. Je travaillais déjà au New Yorker, donc il y a cette dimension-là qui a joué dans mon hésitation à être lue. Et puis, c'était donc ce portrait donc d'un surfeur qui surfe des très grosses vagues, qui est un homme extrêmement haut en couleur, que je connaissais effectivement en Californie. J'étais proche de lui, mais c'est surtout... plus j'écrivais le papier, plus je me disais qu'il n'allait pas aimer ce papier et que l'article n'allait pas lui plaire. Et en fait, c'était quand même un très gros article, hein, c'était 40 000 mots, donc c'est quand même quelque chose qui allait avoir un impact. Et j'avais peur en fait que ça lui déplaise. Et finalement, évidemment, ça a été le cas, hein, parce que quoi que je fasse, de toute façon, ça n'allait pas lui plaire. Mais ça a fait partie aussi des raisons pour lesquelles ça a duré 7 ans.
I mean, that big magazine piece was a precursor to this book. I mean, after that, I thought, yeah, I can do this. I like writing about surfing, and I'll do this memoir. But also, this the main character, the protagonist, the profile subject of that big article, most people who read it thought he was just this fantastic guy, this incredible, larger-than-life, he's charismatic, kind of a brilliant guy. And so it was quite a positive, and people... thought it was he was great, but I knew that he would have a different idea. So it was a kind of, it was like a private problem, not a,
Juste ajouter que ce papier, effectivement, a été pour moi aussi un précurseur du livre, quelque part, parce que c'est quand j'ai écrit ce très long texte que je me suis dit que j'aimais ça, écrire sur le surf, et que j'étais capable de le faire, et donc que j'allais me lancer dans ces mémoires. Mais je voulais dire aussi que le principal protagoniste, aux yeux de la plupart des lecteurs, il est apparu comme quelqu'un d'incroyable, une force de la nature, quelqu'un d'extrêmement charismatique et formidable. Donc c'était... Je savais que lui, là, il n'allait pas apprécier ce portrait, mais c'était plus une affaire privée entre nous. Ce n'est pas que c'était un portrait négatif de lui.
Dans Jean Barba, on découvre que bien avant que vous deveniez un reporter du New Yorker et un membre de cette rédaction, ce journal joue un rôle. Vous décidez d'offrir un lot de vieux numéros, de 100 vieux numéros à l'un des amis qui vous accompagne un moment et vous lisez ces journaux. Je voudrais savoir ce que pouvait représenter ce type de journalisme pour le jeune homme que vous étiez à l'époque. Est-ce que vous rêviez déjà d'écrire dans ces colonnes? Est-ce que c'était une sorte de modèle d'écriture? Est-ce que vous considériez que beaucoup de ces textes étaient après tout de la littérature et pas seulement du journalisme?
Yeah, it was, the short answer is yes. My parents subscribed to the New Yorker, it was always around. So I've been reading it all my life. And I was kind of writing for the New Yorker for a long time, but the New Yorker did not realize it because I wasn't sending them anything. And around that time, this was this Christmas gift you mentioned, these old New Yorkers to my friend that was in Australia. And my friend Brian, who's on the cover of the American edition, he's the other guy in the picture. He's maybe the biggest character in the book. He's a writer also and a surfer. And we traveled together for a long time. And he loved the New Yorker also. So I just, they were, this big stack of magazines was like just one penny a piece. So it was like $2 for 200
magazines. La réponse courte, c'est oui. Mes parents étaient abonnés au New Yorker. En fait, il a toujours été dans ma vie. Je l'ai lu toute ma vie, ce journal. Et pendant très longtemps, j'ai écrit des papiers pour le New Yorker, mais ils ne le savaient pas parce que je ne les envoyais pas, en fait. Et ce cadeau de Noël que vous avez mentionné, en fait, c'était en Australie. C'était à mon ami Brian, qui figure donc sur la photo de l'édition américaine, qui est d'ailleurs le principal personnage du livre, hein, en quelque sorte. Il est aussi écrivain, il est aussi surfeur, et on a voyagé ensemble pendant très longtemps.
And then we kind of read them and re-evaluated some writers, you know, in a different light, in a sort of Australian light. And it was fun. But I think both of us, we were both writing fiction in those days, but we were both keeping notes all the time, diaries, always, you know, a New Yorker form is, you know, a letter from Paris, a letter from, it's like a big form. And we were always, you know, a letter from Queensland, like in our journal, like what would you put in a letter from here for the New Yorker? So that was before I was consciously doing it, I was kind of unconsciously doing it. And so was my friend, who also ended up as a staff writer at the New Yorker.
Et lui aussi aimait beaucoup le New Yorker, et donc j'ai trouvé ces vieux magazines qui étaient à un penny pièce, donc pour $2, j'ai eu un énorme tas de magazines. Et je lui ai offert ça, et puis on les a lus ensemble, en réévaluant aussi la qualité de tel ou tel auteur, en fonction de nos lunettes australiennes du moment. Et tous les deux, à ce moment-là, on écrivait de la fiction, mais par contre, on tenait beaucoup de journaux, on écrivait beaucoup de petites notes, etc. Et puis, on aimait bien écrire sous une forme qui est très New Yorker, qui est la lettre de Paris, une lettre de tel endroit. C'est une forme qui est très courante dans le New Yorker, et nous, on écrivait une lettre du Queensland. Donc, en fait, et mon ami aussi hein, faisait ça, donc de manière inconsciente, on était aussi déjà complètement dans le prisme New Yorker. Et d'ailleurs, lui aussi est devenu aussi un journaliste du New Yorker.
Cette culture journalistique, vous l'avez rappelé, votre famille, vos parents étaient abonnés au New Yorker, c'est une culture assez largement partagée, en tous les cas dans certaines classes sociales aux États-Unis. C'est un magazine qui vend de nombreux exemplaires, mais il y a d'autres journaux dans lesquels on peut trouver le même type d'écriture, Harper's, Atlantic. Il y a cette tradition d'écriture journalistique littéraire, on va dire, depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Mais il me semble que peut-être ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis quelque temps, elle est encore davantage considérée comme un genre littéraire et prend non seulement la forme de ces articles qui continuent de paraître dans ces journaux qui existent toujours, mais la forme aussi de livres typiquement comme votre livre autobiographique et ceux de beaucoup de vos collègues. Et puis c'est quelque chose qu'en France, on a découvert tardivement, ceux qui ne connaissaient pas le New Yorker, c'est cette catégorie qu'on appelle maintenant narrative non-fiction. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette catégorie, dans cette étiquette ?
I guess I do recognize that that label is legitimate for some of what we do. Although it's funny, I mean, I know that's true that the category of literary nonfiction is relatively considered relatively new in France, but there's always been plenty of literary nonfiction from France, and maybe not recognized in exactly the same way. And the New Yorker, just to speak of the New Yorker, has often had a sort of person in France. Like had some really great writers based in Paris. Janet Flanner during the war, A.J. Liebling over the long period, Jane Kramer for many years, like really wonderful writers kind of writing for Americans about France, and often their things are coming out as books. And it's funny to think that probably most French people, of course, were unaware of these, you know, Americans writing in English in their midst, but we thought they were big celebrities in France, I guess not.
Oui, je trouve effectivement que cette étiquette de la narrative non-fiction est effectivement légitime, en tout cas pour certains d'entre nous, au New Yorker, mais ce que je trouve amusant, c'est quand vous dites que il n'y a pas beaucoup de, enfin que c'est assez nouveau en fait la non-fiction littéraire en France. Je sais que c'est vrai, mais en même temps, il y a toujours eu beaucoup d'œuvres de ce type en fait qui ont été écrites ici, même si peut-être on n'en a pas forcément conscience. D'ailleurs, le New Yorker a toujours eu des personnes basées ici à Paris, notamment pendant la guerre. Donc Janet, what was her name, the war correspondent?
Janet Flanner.
Janet Flanner, et puis d'autres par la suite. Il y a toujours eu quelqu'un, et nous, on les considérait comme des auteurs formidables, et ils parlaient de la France, ils écrivaient sur la France, et en fait, pour nous, c'était des célébrités, et on n'avait pas conscience que beaucoup de Français n'avaient justement pas conscience de la présence de ces Américains parmi eux, qui écrivaient ce type de texte.
But this genre, I think has flourished, particularly since maybe the 70s, although writers like A.J. Liebling is a great example, people don't remember him so much anymore, but he wrote whole books that were funnier and more exciting than a novel, and they were all, I mean, they were mostly true. The New Yorker has a good fact-checking department, but I think it wasn't as good in the old days. It's gotten better now. So the stories were better then because the fact checkers weren't as good. And it has, you know, developed plenty of other magazines too.
C'est un genre qui a fleuri notamment dans les années 70 avec un auteur comme A.J. Liebling, c'est ça? A.J. Liebling, pardon, qui est un excellent exemple dont on ne se souvient pas très bien peut-être aujourd'hui, mais qui écrivait des livres qui étaient beaucoup plus amusants à lire encore que des romans. Et qui pourtant était en grande partie basé sur des faits exacts. Le New Yorker a toujours eu d'ailleurs un bon département de vérification des faits, même si à l'époque il était sans doute un peu moins bon, et c'est peut-être aussi pour ça que les histoires étaient un peu meilleures. Cet auteur donc a fini par développer lui aussi des magazines.
And it's funny you say that it's become stronger because at the New Yorker, so I've been there 30 years now, the feeling is that, well, pieces have got shorter, you know, the big pieces are not as big as they used to be, and the magazine is much more news-oriented than it used to be. I mean, I'm encouraged to write close to the news very often. So sometimes I feel like this tradition is not the tradition, but a certain genre is kind of endangered, you know, like things are too urgent, especially with Trump. You know, it's like there's no time to think about anything else but this crisis, this sort of political, cultural crisis, and which we will survive, I think literary non-fiction will survive, but it's under some pressure at the moment.
Mais c'est aussi amusant en fait que vous dites, quand je vous entends dire que c'est un genre qui devient de plus en plus fort, parce que moi ça fait 30 ans que je suis au New Yorker et j'ai l'impression au contraire que les articles ont tendance à raccourcir, que les papiers principaux du journal sont ceux qui étaient les plus longs justement, sont un peu moins longs qu'avant, et surtout qu'on suit davantage l'actualité. Maintenant, moi on me pousse beaucoup plus à coller à l'actualité, donc ce qui me fait penser parfois que cette tradition, ce genre, pourrait être menacée par le fait d'être toujours un peu dans l'urgence, surtout en particulier maintenant avec Trump, qui ne nous laisse pas du tout le temps de réfléchir à quoi que ce soit d'autre que cette crise politique et culturelle à laquelle on survivra, mais qui nous soumet à une très forte pression.
Alors c'est vrai que les articles du New Yorker ont peut-être tendance à réduire un peu depuis une dizaine d'années, mais enfin, il faut préciser au public français que les standards restent quand même très, très impressionnants au regard de ce qu'on peut connaître dans les magazines français. Juste peut-être une dernière question, William Finnegan, à propos d'un autre registre d'écriture. Vous disiez à l'instant que le New Yorker vous encourageait à coller davantage à l'actualité. C'est vrai que cet hebdomadaire maintenant produit chaque jour une newsletter et des articles sur le web qui collent davantage à l'actualité. Mais au fond, vous-même, vous avez toujours pratiqué le journalisme d'opinion, vous le disiez tout à l'heure, le journalisme de commentaires qui fait aussi partie des traditions d'écriture que ce magazine a abrité. Ça, c'est assez rare. Un certain nombre d'autres collègues à vous qui font des longs reportages ne pratiquent pas ce journalisme engagé d'opinion. Pourquoi vous avez voulu garder cette dimension plus politique à votre écriture?
Yeah, it's a balancing act, huh? It's kind of tricky. I mean, I like writing political columns, opinion columns, and yet I have to sometimes think where I'm going to compromise myself as a reporter, you know, kind of disqualify myself from certain stories because I have such a strong opinion in this area already. But there have been plenty of times when, sometimes it's easy, like when I first started there, you write an anti-apartheid column, that's so politically correct, nobody's going to argue with you. And then I can report from South Africa, and again, nobody's going to hold that against me. But in other areas, it's more sensitive, it's trickier. And yet, I've often sort of taken it as a challenge, you know, like I'm writing an opinion piece about thinking of American wars, like the war in El Salvador. We sponsored one side in the Civil War. And so my opinions are known, they're signed, but then I will go to El Salvador and try to report it straight, you know, and it's like this challenge. Will people trust you? They know you have an opinion, or a lot of opinions, but can you also convince them that you're an honest reporter, giving them what you can see and what you can understand, which sometimes contradicts your opinions, you know, in small ways and even big ways.
C'est un jeu d'équilibre en fait, hein, en permanent, et qui n'est pas simple. J'aime beaucoup écrire des éditoriaux, des papiers d'opinion comme ça, mais je dois effectivement penser en permanence à ne pas me compromettre, à ne pas me disqualifier en tant que reporter, en tant qu'enquêteur qui doit avoir une forme d'objectivité, puisque effectivement, quand j'ai déjà une opinion forte sur tel ou tel sujet, je peux être identifié comme tel, ou ça peut être difficile aussi pour moi. Parfois, c'est plus facile. Hein. Par exemple, j'ai écrit beaucoup de papiers d'opinion contre l'apartheid. C'est une opinion qui est acceptée par tout le monde, qui est politiquement correcte. Donc, ça ne m'empêche pas de faire des reportages, de continuer à faire des reportages sur l'Afrique du Sud. Parfois, c'est davantage un défi. J'ai d'autres exemples. Par exemple, j'ai écrit beaucoup sur la guerre américaine au Salvador, celle dans laquelle les États-Unis ont financé une des parties au conflit. Mes opinions étaient connues là-dessus. Donc, aller faire un reportage sur le terrain, le défi, c'était de mettre les gens en confiance et qu'ils sachent que même si j'avais une opinion très forte sur le sujet, j'allais quand même rendre compte des faits, faire connaître les choses telles que je les observais, telles qu'elles étaient sur le terrain, y compris parfois en contradiction avec justement mes opinions, parfois un peu en contradiction, parfois beaucoup en contradiction.
And so far, I seem I've been able to combine those things and not be just kind of universally dismissed as a hypocrite. but it is tricky. There are lots of examples. I used to write a lot about criminal justice policy, the so-called war on drugs and so on. And then I did a lot of reporting, a whole book worth of reporting from the ground about the drug trade and people caught in the drug trade and young people and so on. And the book had an argument, but the challenge was to tell stories that people believed, like apart from the argument. These stories aren't selected to support the argument. That tension I can live with, but it's always there.
Donc c'est vraiment une association. En fait, il faut que j'arrive à combiner ces deux aspects, et j'ai réussi à le faire plus ou moins sans, en tout cas, être universellement déclaré par tous un hypocrite. Mais c'est pas toujours évident. Un autre exemple, c'est que j'ai beaucoup écrit sur la politique judiciaire et la justice criminelle, la soi-disant guerre contre la drogue, et j'ai aussi fait des reportages et même un livre, en fait, des reportages de terrain et un livre sur le trafic de drogue et sur aussi l'expérience, le livre des jeunes qui sont pris dans la drogue. Et le défi, c'était de raconter des histoires qui soient crédibles. En fait, il y a un argument, il y a effectivement le livre va dans un certain sens, mais je n'ai pas choisi les histoires parce qu'elles soutenaient cet argument, parce qu'elles allaient dans le même sens, mais parce qu'elles étaient crédibles. Donc je parviens à fonctionner avec ça, mais c'est un défi permanent.
Merci beaucoup, William Finnegan. Merci, Marguerite Capel, pour la traduction. Je rappelle le titre de votre livre, Jour barbare, à ce jour le seul livre traduit en français.
C'était la masterclass de William Finnegan avec Sylvain Bourmeau. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.